tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sens ce cœur de Dieu pour vous, pour chacun. Il y a une infinie bienveillance. Il vous attire près de lui. Ce que je disais la semaine dernière, vous dites, mais il veut qu'on soit cette fiancée Jésus qui nous aime et qui veut qu'on soit cette bien-aimée. Il n'y a pas de doute pour moi. Et ce n'est pas ici l'un ou l'autre, c'est ensemble. Il n'y a aucun doute pour moi là-dedans. Aucun. Et donc, j'aimerais nous inviter à aller à la rencontre de l'Éternel. C'était intéressant le début du chant, quand on parlait de ces lieux où j'allais errant. Ou bien quand un disait, mais on ne va pas se laisser influencer par ce truc, parce que Dieu, il a autre chose à faire. Je crois que Dieu veut qu'on soit affermi. Qu'on soit affermi, qu'on soit ferme. Et pour ça, il a besoin que nous nous approchions de lui. Osée 6, verset 3 dit, connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Sa venue est plus certaine que l'aurore. Quand on se lève le matin, est-ce qu'on a l'impression que l'aurore, ok, ça va se lever ce matin, il y a peut-être le ciel, peut-être pas. On ne se pose même pas la question. Pour nous, dans une routine normale, tous les jours, le soleil se lève et tous les jours, il est là. Et pourtant, il est dit que sa venue est plus certaine que ce moment-là. Et il y a une invitation à venir connaître Dieu. Jean 8, verset 32, dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et je vais mettre ce verset en parallèle avec Jean 14, 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est pas un concept. Oui, ce sont des idées, des choses, mais pour Jésus, ce n'est pas un concept. Il est la vérité. Quand vous connaissez la vérité, c'est-à-dire que quand on connaît ici Jésus lui-même, alors cette vérité nous a franchis, Jésus nous a franchis. Et on a besoin de connaître les valeurs, les idées, les concepts que Jésus porte avec lui. Et quand il dit cette parole, vous connaîtrez la vérité, ce sont des juifs qui avaient cru en lui en plus. Et il dit, mais si vous demeurez dans la parole, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et là, tout d'un coup, c'est, ben non, on n'a été esclave de personne. Comment est-ce qu'on peut devenir libre? Parfois, on peut être esclave sans même s'en rendre compte. On peut connaître des choses, on peut s'approcher de Dieu, on a besoin d'aller plus loin. Dans Jean 14, 6, je connais tout le contexte, c'est Jésus qui parle et que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 1, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si je n'en étais pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. C'est quand même sympa. Dieu qui s'occupe de nous et qui nous prépare une place. Je n'ai pas besoin de préparer ma place, elle est déjà prête. Et lorsque je m'en serai allé et que je voudrais préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous avoir savoir le chemin? C'est-à-dire, on ne sait pas où on va et on ne connaît pas le moyen d'y aller. Et je dis, lui dit à ce moment-là, je suis le chemin, la vérité et la vie, ne levez tout père que par moi. C'est intéressant de voir que Thomas ne savait pas, n'avait pas compris. Et parfois on peut être comme ça, on peut être proche de Jésus, on peut vivre plein de choses avec, connaître des choses sur lui, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous me connaissiez. Donc il y a ce conditionnel, si tu connais Jésus, il y a une corrélation, quelque chose qui va avec. Tu connais aussi le Père. Et maintenant, Jésus dit, vous connaissez déjà, c'est bon, vous l'avez vu. Réponse de Philippe, juste après. Philippe lui dit, Seigneur, verset 8, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pourtant, Jésus a dit, vous l'avez vu, je suis en lui, il est en moi, on est ensemble, on a fait des choses. Et c'est la réponse de Jésus qui est radicale. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Est-ce que tu ne crois pas cela? Que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est comme si Jésus est en train de nous dire, mais regardez-nous ensemble. Pas comme des choses séparées, regardez-nous ensemble. Regardez-nous. Approchez-vous, venez connaître. Et on a tous besoin de cheminer. Donc c'est normal qu'il y ait des moments donnés où on ne sait pas, on apprend. Donc le problème, ce n'est pas de ne pas savoir. Le problème, c'est de rester à un endroit bloqué. Jean 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je pense que beaucoup de choses, on lutte, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Ou en tout cas, on ne connaît pas suffisamment. On connaît des choses sur lui, on l'a entendu, on entend les prédications, mais il n'y a pas cette relation cœur à cœur. Connaître, ça veut dire avoir développé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est installé et qui ne peut pas être enlevé. C'est comme un sceau. Et j'aimerais juste qu'on puisse laisser Dieu nous venir poser ce sceau sur nos vies. On a besoin de ça. La semaine dernière, je partageais à un moment donné dans ce temps de louange que Dieu avait posé des semences et qu'il l'avait déjà fait. C'est tellement sûr que je pourrais marcher dessus. Ça m'a ramené à l'époque, ça m'a ramené en tout cas la semaine dernière à ma conversion dans les années 90. Il y a une prédication, je fréquentais parfois l'église, et c'était avant la première guerre du Golfe. Et puis, ce jour-là, quelque chose s'est passé et je voulais m'approcher de Dieu, me donner mon cœur. Et pour faire très court toute l'histoire, à un moment donné, oui, je vais y aller. Je vais aller devant. Le prédicateur va me poser les mains et ça va être fait. Waouh ! Et puis il y avait quand même une longue file, alors je voulais pas attendre debout. Je dis, ça sert à rien. De toute façon. Et puis j'ai attendu. Mais j'ai attendu assis. Et ça allait bien. Et là, alors que j'étais assis, j'ai senti cette paix m'envahir. Et j'étais juste subjugué. Je me disais, mais waouh ! Tu l'as déjà fait ! Je peux aller devant, mais je ne vais pas y aller pour avoir cette, éventuellement une conversion. Ou, c'est déjà fait. C'est déjà là. Et ce sentiment de déjà là, et c'est ce qui m'est revenu la semaine dernière. Je me dis, waouh, j'ai déjà vécu ça il y a des années en arrière. Ce sentiment de déjà là. Et Dieu veut nous emmener là. Et ce truc-là, c'est là. On ne peut plus l'enlever, c'est fini. Et je crois que Dieu veut que l'on le connaisse comme ça. Quelque chose qui est tellement affermi que peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est réglé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune lutte. Ça veut dire qu'on connaît la fin de la chanson. On connaît la fin de l'histoire. Et je crois que Dieu veut nous affermir d'une manière juste incroyable. Et par exemple, un des concepts sur lesquels j'aimerais juste qu'on s'arrête aujourd'hui un petit peu, parce que c'est difficile de dire on va connaître Dieu et puis voir dans toute l'étendue de qui il est, c'est juste sa bonté. Combien il est bon. Et combien sa bonté est juste quelque chose d'incroyable, qui s'étend d'âge en âge, qui n'a pas de fin. qu'il désire déverser cette bonté, nous la révéler, afin qu'elle devienne un appui ferme pour nos vies. Romains 2, ça commence un peu compliqué, parce qu'il dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Romains 2, 4. Les richesses de sa bonté. On a quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas mépriser, dans lequel on doit rentrer. Et c'est intéressant parce que c'est là qu'il dit que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est-à-dire que si tu arrives dans un lieu de repentance où tu tombes à genoux face à terre, c'est parce que la bonté de Dieu est venue te trouver. C'est pas le jugement. C'est pas le jugement de Dieu, c'est sa bonté. Alors, bien sûr, au moment de la repentance, tu revois pas mal de choses dans ta vie, tu dis, c'était pas chouette. Ça, c'était pas beau. Ça, c'était pas mal. Ça, non. Et tu vas te repentir pour tout ça. Tu vas dire, Seigneur, pardon, fais grâce. Merci parce que tu me donnes ton salut. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? C'est cette bonté qui te pousse à la repentance. Romains 11, considère donc la bonté, au verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Et puis cette petite condition, si tu demeures ferme dans cette bonté, on peut t'échoir de la bonté. On peut laisser plein de concepts nous envahir. Et après on est un petit peu paumé. Dans Éphésiens 4, il est dit, on ne va pas lire tout le passage, parce qu'il dit qu'il a donné les dons aux hommes, il y a Paul qui invite les uns les autres à marcher avec humilité, douceur, patience, et qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Et quel est l'objectif de Dieu dans tout ça? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine. Et ça, c'est l'objectif de Dieu, c'est de nous faire parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Donc il y a vraiment un chemin à faire pour arriver à cette unité et à cette connaissance, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc l'idée, c'est pas nous, c'est la stature de Christ. Afin que nous soyons plus des enfants flottants tout vent. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à ce qui est le chef, Christ. Dieu aimerait que nous puissions grandir et ne pas être flottants à tout vent. Et j'avais préparé plein de choses sur un... Mais je ne ferai pas ça aujourd'hui. Sur les visions du monde. Comment une vision du monde s'ancre en nous, comment est-ce qu'elle nous influe, comment est-ce qu'elle nous impacte. Et comment est-ce qu'on peut y renoncer. Mais pas aujourd'hui. Je parlais de penser au biais cognitif qui nous amène à penser de telle ou telle manière. Je ne rentrerai pas là non plus. J'aimerais juste qu'on considère que parfois on peut juste se faire avoir, y compris, alors parfois je travaille sur ces visions du monde, alors je n'ai pas travaillé, c'est pas moi, un petit peu quand même, mais c'est un monsieur qui s'appelait John Hay qui a prêché là-dessus et quand on avait l'ISP, l'Institut supérieur maintenant en Cordier, et il prêchait dessus pratiquement 2 semaines par an. Et comme j'étais directeur du centre, j'avais l'opportunité de faire certains travaux, des mails que je pouvais envoyer en écoutant les cours. Je peux te garantir que j'ai été infusé, imbibé. Et j'ai pu voir combien ce qu'on appelle cette vision du monde, qui était simplement un concept, influençait nos vies, y compris dans nos vies chrétiennes. Parce que finalement, quand on la compare, à l'époque c'est surtout comparé aux visions du monde athées, hindouistes, bouddhistes ou autres, et c'est-à-dire bon, là on peut pas aller, là on veut aller, mais tu te rends compte que les mêmes concepts et les mêmes liens, les mêmes enfermements peuvent exister dans la famille chrétienne. Et tu te dis, waouh. Et je peux te dire que parfois tu vois certaines choses se faire et tu te dis, bon, je sais d'où vient le problème. C'est parce que la personne vient de dire, c'est ce qui a été infusé dans sa vie. Et le problème, c'est que c'est une vision du monde exige une loyauté totale. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'en changer. Et ça influe tellement nos vies. Et moi, je peux dire que parfois, quand j'entends certaines personnes prêcher, j'en ai entendu pas mal dans ma petite vie, il y en a certains qui disent « Ok ». Par exemple, toute vision du monde nous amène à penser à quelle est l'origine de la chose et comment est la fin. Où vient la création, d'où elle vient, qui l'a fait, mais quelle est sa fin, quelle est sa finalité? Où va l'homme? C'est vraiment des concepts philosophiques, mais en même temps, c'est des concepts réels. Et quand tu vois certaines personnes parler de la création, tu dis waouh, est-ce qu'on a le même Dieu? Je crois que oui. C'est pas parce qu'on a des pensées de travers qu'on n'a pas le même Dieu. Ouf, heureusement. Mais juste par exemple, on a. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. 11h10. Oh, ça va. Large. Quand parfois j'entends parler de fin du monde et la manière dont on traite la création, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si Dieu est bon, si Dieu est juste, pourquoi ça finirait comme ça? Alors, un conseil, c'est quand vous faites une étude, vous devez toujours voir ce qui vous arrange et ce qui ne vous arrange pas. Sinon, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Vous ne cherchez que les versets qui vous intéressent et les autres, vous les mettez de côté. Et concernant la fin du monde, il est pareil de nouveaux cieux et nouvelles terres, que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans l'Apocalypse, que ce soit dans Pierre, on parle de choses qui sont gardées pour quelque chose qui va se dissoudre dans le feu. Donc, je ne dis pas qu'il ne va pas rien se passer et je n'ai pas la compréhension totale et l'éclairage total. Et je suis obligé de voir ça. Sinon, c'est ce qu'on a fait encore une fois, c'est qu'on appelle la biais cognitif. On prend que ce qui nous intéresse et le reste, et on a toujours raison. Je peux vous garantir que vous pouvez regarder plein d'endroits, vous aurez toujours raison. Parce que la manière de faire ce travail nous oblige à une certaine honnêteté intellectuelle et à regarder ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas aussi. Donc, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se finir. Et peut-être que tout ça va passer en feu. Mais ce que je perçois parfois, c'est que le monde va être tellement souillé, tellement pourri, que Dieu va... D'accord. Dites-moi, qui a créé le monde? Dieu. Est-ce qu'il n'est pas parlé de versets, comme dans Romains, où il est dit que toute la création soupire? Donc la création soupire, après l'avènement des fils de Dieu, après cette venue finale, et à la fin... Disparu. Est-ce que Dieu n'a pas dit à un moment donné, après Noé, mais ok, j'ai détruit la terre à cause de l'homme, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il ne referait plus jamais ça? Oui, mais c'est dans l'eau. D'accord. Donc le même Dieu qui a dit je ne détruirai plus, il a joué sur les mots, il va dire bon ok, pas l'eau, mais le feu, oui. Ce serait pas mal ça. Ouais, le feu, je prends. Personnellement, j'ai un peu de mal avec ça. Et je veux rester honnête en disant que je n'ai pas toutes les clés. Par contre, quand toute la création soupire, et que tu entends ces soupirs, j'ai du mal à croire qu'il va juste condamner la création à nouveau à cause de l'homme. Est-ce que Dieu serait injuste? C'est pas le même Dieu. On a dit que Dieu est juste. Pas juste qu'il est bon, mais qu'il est juste aussi. On a besoin de se positionner. Quand on entend parfois certains messages, retenez tout ce qui est bon dans le message, parce que parfois 99% des choses sont bonnes, et peut-être 1% est un peu de travers. Ce 1%, mettez-le de côté. Le nombre de fois où on m'a annoncé la fin de toute chose, dans mes 35 ans de vie, 36 ans de vie chrétienne, et des choses qui étaient sûres qui arrivaient à septembre parce qu'il y avait ci, ça, mais tellement affirmatif. Pour l'instant, c'est toujours pas là. Hein. Il n'est pas dit que Jésus va revenir. Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas entièrement, et ça, c'est des mystères que je dois accepter tels que. Par contre, je peux me souvenir que quel que soit ce qu'on me raconte, Dieu est bon. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, il va punir le méchant, mais il ne va pas punir ce qui n'est pas méchant. Et que si quelqu'un veut, si Dieu veut renouveler quelque chose à quelqu'un, eh ben, il peut le faire sans la détruire. On a tous entendu parler de gens qui ont été guéris, qui avaient un membre qui était foutu, puis hop, guéri. Est-ce qu'il est passé par le feu, le fameux membre? Ben non. Dieu le guérit et le restaure. Il n'est pas obligé de passer par le feu. Mais, encore une fois, je redis, je laisse à Dieu toute autorité dans ce que moi je ne comprends pas. Mais en tout cas, qu'aucun homme, Colossiens 2, verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Comme cet après-midi, on va parler dans le prophétique, forcément, on va peut-être rentrer dans des trucs un peu plus space, moins terre à terre. Mais même là, faisons attention. Je vais revenir sur la bonté de Dieu. Psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice, dont on parlait, l'équité, faites que les choses soient justes, sont devant la base de ton trône. Mais, et j'aime la suite du verset, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Là, il y a quelque chose qui est un fondement, mais là, c'est tout le temps devant lui. Dieu a tout le temps sa bonté, sa vitalité devant sa face. Psaume 94, verset 18. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Parfois, on peut être troublé et c'est normal. Mais ta bonté me sert d'appui. Quand je cloche, que je ne sais plus si c'est juste ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a pas dit, ce que j'ai entendu, ce que le monde me dit, ta bonté me sert d'appui. Dans les semaines qui viennent, que la bonté de l'Éternel vous serve d'appui. Quand les pensées ont s'agiter au foule de toi, que ces consolations viennent réjouir ton âme. Psaume 109. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Sauve-moi par ta bonté. Alléluia. Psaume 68, on pourrait lire tout le psaume. Il y a des temps de réjouissance, il est le Père, il est, la terre tremble devant lui. Verset 11, ton peuple établit sa demeure dans le pays, que ta bonté, pour que par ta bonté, ô Dieu, tu aies préparé pour le malheureux. Le peuple est établi par quoi? Parce que dans sa bonté, tu as préparé un pays pour les malheureux. La bonté de Dieu est aussi puissante pour écraser nos ennemis. Psaume 143, dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Waouh. Pas dans ta colère, pas dans ta vengeance. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Que cela soit dans vos vies, que les oppresseurs de vos âmes soient mis dehors. Soit décédé entre guillemets, parce que vous êtes plus que ses serviteurs, vous êtes ses fils et ses filles. Tout le psaume 107 nous parle de sa bonté. Psaume 2 Samuel 22, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Il y a quelque chose où Dieu veut nous emmener pour être plus grand. Alléluia. On a besoin d'être affirmé, de connaître l'Éternel. Et ainsi, quoi qu'il arrive, de rester ferme. Parfois, je me dis moi-même, mais est-ce que tu es juste insensible à tout ce qui se passe? Ça peut arriver, hein. On est plus ou moins empathique, plus ou moins sensible. Mais je me rends compte que cette insensibilité me donne une force. Parce que je ne suis pas baladé à tout droit, à tout truc de doctrine, à tout vent, à tout ce qui se passe à droite et à gauche. et je peux marcher de manière ferme. On a besoin de ça. L'Église a besoin de ça. D'être affermie dans sa bonté, dans qui il est, pas juste dans les concepts. Et pour ça, il y a un chemin à faire. Dieu nous invite à venir le rencontrer, à venir le connaître, lui. Et ne soyons pas comme Thomas ou Philippe qui ont marché avec Jésus pendant des années, 3 ans me semble-t-il, et qui à la fin, Jésus va dire, mais tu n'as rien vu. Seigneur, viens ouvrir nos yeux. On va juste prendre 5 minutes, donc du coup je suis pratiquement dans mon timing. Alléluia. On va juste prendre un temps de prière par rapport à tout ça, si vous le voulez bien. Seigneur, moi je veux juste annoncer ta bonté. Annoncer ta bonté. Annoncer de l'allégresse et la joie. Mais il dit que quand cela est fait, alors nos os même se réjouiront. Je prie pour que cette bonté vienne envahir nos vies, qu'on puisse célébrer ta présence et dire, mais Seigneur, tu es bon pour moi. Qu'alors que les pensées viennent à droite, à gauche, qu'on soit plus comme errant, comme dans ce premier chant, mais qu'on puisse marcher sur cette voie droite, comme dans Isaïe 35, qu'on puisse marcher sur une voie droite, juste, et que l'allégresse et la joie nous accompagnent, qu'on puisse être affermis dans ta présence, pas juste des mots, mais je te prie de nous emmener plus loin dans ces lieux de révélation qui viennent bouleverser nos âmes et nos esprits. Seigneur, Job, après tellement d'années de service, tellement de fidélité, il a dit, mais j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin. Ouvre nos yeux sur qui tu es. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles, que nos pensées viennent entendre qui tu es. Ouvre. Que tout ce qui est petit, étroit et fermé en nous soit ouvert dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, que les portails éternels soient élevés. Je prie que chacune des portes qui est là soit ouverte et élargie. Qu'il y ait un agrandissement et que, pas juste un petit Jésus lointain, mais que le roi de gloire fasse son entrée dans vos vies, dans nos vies, dans la vie de l'Église. Que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus. Alléluia. Amen. Et Seigneur, devant toi, on vient secouer toute la poussière qui a pu s'accumuler dans nos vies et toutes ces alliances qu'on a pu faire avec des fausses pensées, avec des faux dieux. Tu as dit que tu ne dois pas se faire d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est haut dans le ciel. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on t'a fait à notre image individuelle, où chacun avait son petit dieu, et on n'a pas reconnu l'unique, le vrai. Parce que c'est chacune de ces visions se bloquait les unes les autres. Seigneur, viens enlever ces divisions dans l'Église, dans nos visions. Que les murs de division tombent, que les frontières installées par des visions fausses et erronées tombent dans le nom puissant de Jésus. Que nos pensées arrivent à la connaissance de l'Éternel au travers de Jésus, au travers de la révélation donnée par le Saint-Esprit. Que nos pensées soient soumises à tes pensées. Et aujourd'hui, je prie pour que nos pensées captives maintenant viennent être abaissé dans ta présence. Que tout ce qui s'élève contre toi, que ces montagnes d'incrédulité ou d'erreur soient enlevées dans nos vies. Et qu'on puisse simplement croire que tu es ce Dieu juste, puissant, bon et merveilleux. Alléluia.